Bonjour à chacun, à chacune. Bénissons le Seigneur pour ses chœurs, ses chants qui ont porté nos cœurs à l'espérance et à la confiance en Jésus. Que Dieu soit béni. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu, qu'il nous aide par son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et il nous révèle les choses de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous le sujet de la paix, être en paix. Il y a 15 jours de cela, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être, j'ai parlé des désirs de l'Esprit. Et il y avait aussi ce combat avec les désirs de la chair. Et dans ce contexte-là, l'apôtre Paul évoque le fruit de l'Esprit. Et dans ce fruit de l'Esprit, il y a la paix qui y figure. C'est ce que veut produire en nous l'Esprit de Dieu. Il le fait, il le développe en nous. Un fruit, ça ne vient pas à maturité tout de suite. Hein. D'abord, il y a la fleur, et puis... Voilà, et puis le fruit qui commence à arriver, puis à mûrir. Donc la paix de Dieu se développe en nous par l'Esprit de Dieu. Le texte que j'ai choisi d'introduction, j'ai choisi deux textes d'introduction dans Romains 14, et puis on en lira un autre dans la Genèse aussi au chapitre 26. Mais d'abord, Romains chapitre 14, Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons rechercher à ce qui contribue à la paix, puisque le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, le second texte d'introduction, je l'ai choisi parce qu'il nous donne l'exemple d'un homme de paix dans Genèse 26. C'est Isaac. Isaac a vraiment été un homme de paix quand on regarde son parcours. On parle beaucoup d'Abraham, et à juste titre, parce que la parole de Dieu en parle beaucoup. Et il y a là un exemple de foi extraordinaire dans l'exemple d'Abraham. On parle beaucoup de son petit-fils Jacob, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Jacob. Mais on parle un peu moins du fils d'Abraham, père de Jacob, Isaac. Isaac qui a eu un parcours... quand même pas si simple que cela, quand on regarde, il a subi les moqueries dès sa naissance, et puis Isaac, quand même à l'adolescence, a vécu une chose terrible. Son père a failli le sacrifier, avec un couteau, imaginez. Il voyait le couteau s'approcher, mais on voit Isaac qui n'a pas bronché. C'était pourtant un adolescent, hein, il aurait pu se débattre. Un adolescent de 14 ans, voilà, il a quand même de la force. Mais Isaac n'a pas bronché. Je trouve ça toujours curieux. Et puis, on ne voit pas que Isaac n'ait gardé aucune rancune, amertume vis-à-vis de son père. Il aurait pu, quand même, ce geste, c'est terrible. Hein, quand on le considère. Puis Isaac a grandi avec tout cela. Et puis, on va lire un texte dans Genèse chapitre 26. On peut lire à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point. Car je suis avec toi, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Voilà, on peut s'arrêter là. Merci Seigneur pour cet exemple qui va illustrer notre sujet de ce matin sur la paix. Et j'aimerais, avant de développer un peu l'exemple d'Abraham, donner la définition de la paix. Et qu'est-ce que la paix ? La paix, c'est un état calme. La paix, c'est la tranquillité, être en tranquillité. Et hier, lors de la randonnée avec les frères et sœurs, nous avons goûté sur les sommets la tranquillité de la montagne. Merci Seigneur. Tranquillité qui était là, un calme. Et la paix, c'est aussi une absence de perturbation, de troubles, de guerre, de conflit. Et les références dans la parole de Dieu sont très nombreuses, et les cas, les exemples y sont aussi. La paix, c'est un bien précieux qui, aujourd'hui, de notre génération, mais pas que, remarquez, quand on considère les générations précédentes aussi, en tout cas, elle se raréfie. Les conflits, déjà intérieurs, mais les conflits sur les différents lieux de travail se multiplient, les conflits familiaux, les conflits entre nations, les conflits de voisinage, enfin, voilà, on voit que la paix, c'est normal, puisqu'il y a là aussi des temps qui deviennent difficiles. L'apôtre Paul nous l'avait dit, qu'il y viendra des temps difficiles. Alors, la paix, c'est un bien précieux. Et Isaac l'avait bien compris, Isaac était un homme de paix. Isaac aurait pu revendiquer certaines choses, puisque les puits, c'est son père qui les avait creusés, ils appartenaient à son père. Il aurait pu revendiquer cela, surtout que dans ces contrées-là, dans cette région semi-désertique, on peut comprendre que l'eau est vitale. Nous, pour nous, on ouvre le robinet, on a de l'eau. Hein. Mais il faut quand même se remettre dans ces pays-là. Parfois, il y a des robinets, mais l'eau, elle coule pas. Hein. Je me rappelle, on habitait un quartier en Tunisie, et l'été, surtout pendant la période du Ramadan, où tout le monde fait ses ablutions, on ouvrait les robinets, mais il n'y avait pas d'eau. Hein. Donc il faut prendre ses dispositions, il faut anticiper. Bon, En temps normal, il y avait de l'eau, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple d'avoir de l'eau dans certains pays. Et surtout, quand il y a des troupeaux, l'eau est nécessaire. Et non, elle est plus que nécessaire, elle est vitale, elle est indispensable. Et les conflits pouvaient naître rapidement autour de l'eau. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisqu'aujourd'hui, on parle encore de la guerre de l'eau dans certaines régions, hein. Et on voit que l'eau est un sujet de conflit et est vital. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable à la vie. Et Isaac, c'était les puits de son père. Il aurait pu revendiquer cela auprès d'Abimélec. Et en plus, non seulement ça, mais on voit que les Philistins, ils ont fait quand même quelque chose vraiment d'odieux, j'allais dire, pour ennuyer, pour embêter Isaac. Probablement qu'il y avait de la jalousie derrière, parce que Isaac devenait de plus en plus riche, ses troupeaux allaient en grandissant, et ils ont comblé les puits. Ils ne sont pas simplement appropriés les puits, mais pour être certain que Isaac n'allait pas utiliser ces puits, ils les ont remplis de pierres, remplis de poussière. Voilà, ça se fait pas, surtout dans ce pays-là. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Et quand Abimélec a dit « va-t'en de chez nous », Isaac n'a pas cherché querelle, n'a pas insisté, n'a pas contredit Abimélec, ce qui aurait pu engendrer un conflit, une guerre. D'autant que Isaac semble être en position de force quand même, puisque ses serviteurs étaient en plus grand nombre que ceux d'Abimélec. Alors Isaac, il est parti plus loin, il ne cherche pas querelle. Et il va à nouveau creuser les puits, verset 18, que son père avait creusé du temps d'Abraham. Donc voilà, à nouveau, c'est les puits de son père. Et les Philistins les avaient comblés. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils cherchent querelle, Abraham. Non. Qu'est-ce que fait Isaac? Allez, une fois de plus, Isaac s'en va. Il va aller plus loin et ça recommence. Troisième fois, ça recommence. Les disputes arrivent. On ne le laisse pas tranquille. Comment parfois on ne nous laisse pas tranquille. C'est vraiment du harcèlement quand même sur Isaac. Et il y avait quoi aussi d'être contrarié dans son cœur, d'être chagriné dans son cœur, de « ouais, mais maintenant ça suffit quoi hein. ». Il aurait pu prendre les armes et dire « Oh, bon, ça fait deux fois que je m'envoie plus loin, maintenant ça suffit, je vais revendiquer ». Il aurait pu prendre les armes, il aurait pu être contrarié. Qu'est-ce que fait notre Isaac? Il va plus loin, encore une fois. Quel homme de paix extraordinaire! Pourtant, l'eau est vitale. Et là, il va aller dans un lieu, là, cette fois-ci, plus personne ne lui cherche querelle. Et il va appeler ce puits d'un nom approprié, Rehoboth, en disant « L'Éternel nous a maintenant mis au large ». Dans ce lieu-là, Isaac sera en tranquillité, lui, sa famille, ses serviteurs, ses troupeaux. Et Isaac avait compris une chose dont nous avons besoin, nous aussi, de comprendre. C'est que si l'eau était précieuse, il y a un bien encore plus précieux, c'est la paix. La paix est un bien encore plus précieux. Il y a des choses qui sont, j'allais dire, ici-bas indispensables. Il y a des choses, voilà, on en a besoin pour vivre. Et on pourrait vraiment, se démener pour les avoir au point de se donner beaucoup de soucis intérieurement. Mais il y a quelque chose qui est bien plus précieux, c'est la paix de Dieu. Nous ne voulons pas, j'allais dire, brader les biens spirituels que Dieu nous accorde, reconnaissant qu'ils sont plus précieux que ces biens dont nous avons besoin, effectivement, quand même pour vivre ici-bas, mais qui ne sont que passagers, d'autant plus nous nous souvenons que notre Père Céleste sait que nous en avons besoin de ces choses-là et nous les donnera. Il ouvre des portes devant nous. N'est-ce pas lui qui tient notre vie entre ses mains et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin? Nous voulons rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sachant que toutes ces choses-là, Dieu nous les donnera. Notre vie présente, notre vie à venir est entre les mains du Seigneur. Et rien que de faire cela, rien que de placer notre confiance dans le Seigneur, nous apporte beaucoup de calme, beaucoup de confiance et donc beaucoup de paix. Alors merci Seigneur pour cet exemple. Seigneur veut remplir nos cœurs et on comprend pourquoi la paix est un fruit de l'esprit, car ce n'est pas inné. Si Abraham avait laissé sa chair parler, dont on parlait il y a 15 jours, voilà, il aurait pris les armes. Il serait rentré dans la querelle, dans la dispute avec les Philistins, mais il est parti plus loin. La paix est dans la nature de Dieu. On peut passer à la diapositive suivante. La paix est dans la nature de Dieu. Et c'est pour cela aussi qu'elle est précieuse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il est dit dans 2 Thessaloniciens, alors j'ai oublié de marquer les versets, mais 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je le répète, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. En tout temps, c'est précisé, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit, rajoute cette expression en tout temps, et en plus il rajoute aussi de toute manière. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, il est là. La paix est en lui, il est la source de la paix. La source de la paix. Le monde court après la paix, mais ne l'a pas. L'Antéchrist va proposer un semblant de paix. Et oui. Dans ce monde qui est en conflit, etc., il va proposer un semblant de paix, parce qu'il est le faux Christ. Et lorsque les hommes diront « paix », et sécurité, on sait ce qui va arriver. Une ruine soudaine surviendra sur eux. Mais la paix véritable, elle est indestructible parce qu'elle est fondée en Christ. Elle est fondée en Christ. C'est lui qui est la source de la paix et nous voulons venir à lui pour trouver la paix. C'est dans la nature même de Dieu. C'est dans la nature du royaume de Dieu, nous l'avons lu dans le texte d'introduction. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et notre Dieu veut que nous soyons en paix. Nous voulons vraiment la rechercher comme un bien précieux, rechercher ce qui contribue à la paix. La parole de Dieu nous dit aussi, soyez en paix envers tous les hommes, autant que cela dépende de vous. C'est pour cela aussi que l'apôtre Paul dit de prier pour tous les hommes. Dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul dit, écrit ceci, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Oui. L'apôtre Paul nous exhorte avant toute chose, il précise encore là, hein, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Or, souvent, on se cite ce passage, et à juste titre, pour nous encourager à prier pour les autorités d'un pays, parce que c'est marqué, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Et il nous faut le faire, mais il est aussi dit pour tous les hommes. Et pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Et il y a ce mot « afin », il y a un but à cela. « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille ». Replaçons-le quand même dans le contexte des premiers temps de l'Église, où l'Église souffrait énormément, où l'Église était persécutée, où l'Église était harcelée, où il y avait une opposition terrible sur l'Église. Mais l'apôtre Paul était conscient d'une chose, c'est que Dieu pouvait écarter tout cela. Que Dieu pouvait écarter tout cela. Et ces hommes qui n'aiment pas l'Église et qui cherchent des ennuis à l'Église et qui causent troubles au sein de l'Église, ces rois, tous ceux qui font des lois, ceux qui sont élevés en dignité, qui font des lois qui perturbent la vie normale de l'Église, il nous faut prier pour eux. Il nous faut prier pour eux, bien sûr, pour leur salut. Il nous faut prier pour eux afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Voilà, c'est ce que veut le Seigneur. Avant de prendre les armes, d'ailleurs on n'a pas à les prendre, notre arme à nous, nos armes à nous, c'est la prière. Il n'y a pas que la prière, il y a la parole de Dieu aussi. Mais la prière... J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Donc on voit qu'ici, l'importance de la prière, c'est ce que Dieu veut, que nous menions une vie paisible et tranquille. Alors, paradoxalement, pour avoir la paix, il nous faut parfois combattre. C'est ainsi. D'ailleurs, dans le contexte du combat spirituel dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, vous verrez, si vous lisez ce passage, il est question du combat spirituel. Parce que Satan cherche à nous susciter bien des tracas, des soucis afin de nous faire chuter. Il nous suscite des combats. Et dans ce contexte du combat spirituel, il est parlé de l'évangile de paix. Extraordinaire, hein. Quand l'apôtre Paul donne la panoplie du soldat chrétien, il parle du casque, etc. Il va parler aussi des chaussures que donnent les ailes, de l'évangile de paix. Voilà. L'évangile de paix. L'évangile apporte la paix. Même si il est vrai que lorsque nous acceptons l'évangile, si des membres de notre famille ne veulent pas se convertir, le fait que nous acceptions l'évangile, ça nous apporte la paix, mais ça peut amener dans la famille des conflits. C'est pour ça que Jésus a pu dire « Je n'apporte pas la paix, mais l'épée ». Et on le comprend. Parfois, nous le voyons même au sein de nos propres familles, et nous le voyons aussi au sein de familles qui sont d'origine musulmane ou autre. Lorsque un membre de la famille se convertit, ça apporte des conflits dans la famille. Jusqu'au jour, et ces bien-aimés prient leur famille, bien sûr, pour que le Seigneur visite leur famille. Mais il faut reconnaître que le choix de suivre Dieu, le choix d'accepter l'Évangile, peut nous susciter des combats. Mais nous voulons, encore là, nous tenir dans la prière, dans le témoignage. Dans la parole de Dieu, il est question d'un homme, c'est Caleb. Caleb, donc il est question de Caleb, et il nous est dit que lorsque Caleb est entré en Canaan au bout de quelque temps, il est rentré en combat contre Arba. Qui était Arba? Un Anakim, père des Anakim. Vous savez, ces Anakim, c'était les géants qu'il y avait. Les géants. Qui étaient là en terre de Canaan. Parmi ces géants, dans la génération d'après, de cette tribu-là, j'allais dire, de cette ethnie-là, va émerger Goliath, contre qui David va combattre, mais on sait que Goliath avait aussi des frères. Goliath avait des frères, et certains soldats qui étaient avec David vont combattre contre eux. Et quand il nous est dit que Caleb a combattu contre eux, il est rajouté juste après, et le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Ces hommes méchants, ces hommes qui en imposaient par leur taille, ces hommes de guerre, ne cherchaient qu'une chose, à écraser, à dominer les autres. Ils ne cherchaient qu'à mettre du trouble, et Caleb a combattu contre eux. Et dès lors, le pays fut en repos et dans l'ordre. Donc nous savons que l'ennemi de nos âmes nous suscite bien des combats. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Et si nous rentrons dans un combat contre la chair et le sang, il est certain qu'on va se créer beaucoup d'ennuis, on va se créer beaucoup de difficultés, on va se créer beaucoup de contrariétés, on va se créer beaucoup de stress, beaucoup de guerre intérieure. Mais notre combat à nous, il est spirituel. C'est contre les esprits méchants que nous avons à lutter dans les lieux célestes. Et nous savons que le Seigneur est celui qui a la victoire. Dans Romains chapitre 16, verset 20, il est dit que ce Dieu de paix va justement écraser bientôt Satan sous nos pieds. Romains 16, verset 20, c'était les diapositives avant. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Alléluia. Que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. C'est plein d'espérance. C'est plein d'espérance. Que le Seigneur soit béni. Alors, le royaume de paix, le royaume de Dieu est un royaume de paix, et nous bénissons le Seigneur pour cela. D'ailleurs, le millénium est un aperçu de cela. Un monde, une période de l'histoire de l'humanité où Satan est lié. Donc Satan n'a plus d'influence sur ce monde. Satan n'a plus d'influence sur ce monde. Ne peut plus manipuler personne. Ne peut plus susciter de conflits. Qu'est-ce qui se passe? 1000 ans de paix. Au bout de 1000 ans, Dieu va permettre, Dieu va relâcher Satan pour quelque temps. Et à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Les conflits reviennent. Jusqu'au jour où Dieu va mettre un point final à tout cela. Alors merci Seigneur parce que tu es présent dans nos vies et tu développes la paix en nous par le Saint-Esprit. Et nous voulons vraiment nous éloigner, comme a fait Isaac, de tout ce qui pourrait faire la guerre à notre âme. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, nous voulons, comme l'apôtre Pierre l'écrit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Elles font la guerre à l'âme. Non seulement ces convoitises charnelles nous séparent de la présence de Dieu, non seulement elles constituent en elles-mêmes un péché, mais en plus on voit que ça fait la guerre à notre âme. Nous pouvons déjà débroussailler en nous éloignant, en nous abstenant de ces convoitises charnelles. Dans la parabole du terrain de semeur, pourquoi le fruit n'arrive pas à maturité dans la semence qui a été semée parmi les épines, c'est parce qu'elles étouffent la semence. Et donc le fruit n'arrive pas à maturité. Et ici, il en est de même avec les convoitises charnelles. Elles font la guerre à l'âme, donc la paix ne peut pas se développer en nous. Et on aurait beau dire « Seigneur, donne-moi la paix ». Non. Ah, d'ailleurs, à cette prière, le Seigneur pourrait nous répondre « Tu veux la paix ? Abstiens-toi des convoitises charnelles. » Dans Jacques chapitre 4, en ce moment, on a commencé une étude sur l'épître de Jacques le mardi soir. Jacques dira au chapitre 4, verset 1er, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc on voit bien que ces choses-là, c'est-à-dire la chair dont on parlait il y a 15 jours, les désirs de la chair, hein, nous suscitent des luttes, des querelles. Et voilà, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? On pourrait lire encore Romains chapitre 7, verset 23. Romains chapitre 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte, là, il est question de lutte, contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce texte de Romains chapitre 7 à partir du verset 14 nous parle du conflit intérieur, d'une lutte antérieure, à cause de, j'allais dire, de cette vieille nature là qui est en nous et qui nous suscite des luttes. On voit vraiment que là il y a une lutte, mais la victoire elle est en Christ. Et là on voit encore que pour avoir la paix dans ce domaine, il faut combattre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le grand vainqueur. Et que sur la croix, il nous a déjà donné la victoire. Que Dieu soit béni. Réfléchissons bien à ce que nous pouvons faire. Réfléchissons bien à tous nos choix, à nos choix que nous faisons dans notre vie, parce que cela peut nous susciter bien des difficultés, bien des combats. Et je rappelle une chose que je disais en introduction, la paix est un bien encore plus précieux. Dans le psaume 131, un psaume de David, on sait que David était roi, et il dit ceci, psaume 131, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi, loin de là, j'ai l'âme calme, et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » C'est un roi qui dit ça, David. Et David ne voulait pas s'occuper des choses trop grandes. Il connaissait ses limites, des choses trop relevées pour lui. Vous savez, quand on dépasse, on a tous des limites. Et quand on dépasse ses limites par ambition, par orgueil, ou parce que tout simplement on n'a pas bien réfléchi, on se lance dans des projets insensés sans avoir réfléchi, est-ce que j'ai la capacité de faire? Et on s'engage là-dedans, et puis après on est complètement, voilà, on n'y arrive plus, voilà. On a peut-être vécu ce genre de choses, parce que c'est trop relevé pour nous. On pourrait dire quand même, David c'est un roi, voilà. Quand même, David avait aussi ses limites. Et au contraire, il dira, j'ai l'âme calme et tranquille. Quand on reste dans les limites que nous sommes apparties les uns et les autres, on est beaucoup plus tranquille. Dieu peut faire en sorte que nos limites s'étendent, ça lui appartient. Dans ce cas-là, on peut aller plus loin. Mais on suit le Seigneur. Et c'est pas le Seigneur qui nous suit. Comprenez bien. Parfois, on dit, Seigneur, tu es avec moi. Oui. Est-ce que, bien sûr, le Seigneur, dans sa fidélité, nous accompagne. Mais comprenons bien que c'est à nous de suivre le Seigneur. Et là, à partir de ce moment-là, nous avons l'âme calme et tranquille. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Cette parole qui a une autorité. Cette parole qui rassure notre âme. Quand les disciples étaient dans la barque, on voit ça dans Marc chapitre 4, et il a suffi que le Seigneur dise « Silence, tais-toi !» La mer était en furie, le vent hurlait, la pluie était là, et les disciples étaient paniqués complètement. C'était pas un moment de paix, hein. C'était pas un moment de tranquillité, c'était pas un moment de calme. Mais il a suffi que Jésus dise par sa parole « Silence, tais-toi !» Il nous a dit « Il y eut un grand calme qui est survenu soudainement. » Il y eut un grand calme, tout ça par l'autorité de la parole de Christ. Alléluia! Et nous bénissons le Seigneur pour l'autorité de la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit une chose, ça s'applique. La chose arrive. Nous voulons vraiment joindre la foi à la parole de Dieu, qu'elle puisse vraiment apporter cette paix dans nos cœurs. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs afin que ta paix s'installe. Parle à nos cœurs afin que nous puissions, faire les bons choix. Parle à nos cœurs, Seigneur, afin de dissiper tout tourment qui peuvent être là, l'autorité de la parole du Seigneur. Je parlais de la prière tout à l'heure, l'importance de la prière, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. L'apôtre Paul écrira dans une autre épître au chapitre 4, une épître qu'on cite souvent, enfin ce passage, pour nous encourager à la prière. Au chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et quoi? La paix de Dieu, alléluia, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ce qui pourrait nous inquiéter, on l'apporte à Dieu. Et souvent, ce qui nous inquiète, c'est quoi? C'est les choses de cette terre. Les besoins. Isaac avait besoin d'eau. Toutes les choses de cette terre nous apportent beaucoup d'inquiétude. Mais ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Tout ça, on l'apporte au Seigneur. Et la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle n'est pas compréhensible, elle surpasse toute intelligence. Comment expliquer que quelqu'un soit en paix au beau milieu de tourments? Comment expliquer que quelqu'un soit en paix au beau milieu d'un combat? Jésus était en paix dans la tempête. Elle surpasse toute intelligence, cette paix de Dieu, et elle garde nos cœurs, elle le garde. Parce que quand nous sommes agités, nous faisons n'importe quoi. Quand nous sommes paniqués, nous faisons n'importe quoi. Mais la paix de Dieu, elle garde nos cœurs, que son nom soit béni. Nous avons chanté ce matin plusieurs cantiques qui nous ont rappelé la croix de notre Seigneur. Et l'apôtre Paul écrira dans l'épître suivante aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 20, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Il a fallu que le Seigneur souffre sur la croix pour apporter la paix. Cette paix qui est rendue possible par la réconciliation que nous trouvons à la croix. Merci Seigneur, déjà il nous a réconciliés avec Dieu. Et puis la conversion apporte aussi réconciliation les uns envers les autres. La croix. La croix. Et je veux me rappeler aussi, quand j'ai un conflit avec un frère ou une sœur en Christ, qu'entre nous deux, il y a Jésus qui a été crucifié. Qu'il y a quelque chose de bien plus important que le conflit que nous pouvons avoir. C'est notre unité en Christ qui est rendue possible par la croix. Alléluia. Il y a des choses bien plus importantes que les choses ici-bas qui nous suscitent bien des combats. Alors, merci Seigneur, nous voulons rechercher ce qui contribue à la paix. Dans les Béatitudes, Jésus dira « Heureux ceux qui procurent la paix, heureux que ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. » Un dernier texte dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus a été crucifié et on sait que tous l'ont abandonné à ce moment-là. Même Pierre, qui pourtant avait dit au Seigneur qu'il irait jusqu'au bout, il y a eu une grande crainte. Les disciples étaient dans la crainte, parce que on pouvait aussi leur faire ce qu'on avait fait à leur maître, à Jésus. Donc ils s'étaient vraiment barricadés. Le lieu où ils étaient fermé, voilà, là ils pensaient, on s'isole, on se met en sécurité, comme ça on est tranquille. Ils étaient dans la crainte, et quand on est dans la crainte ainsi, on n'est pas en paix. Oh, ça peut même susciter une sorte de paranoïa, au moindre petit bruit, je me mets à la place des apôtres, au moindre bruit dans la rue, voilà, qu'ils pouvaient avoir, peut-être une crainte les saisissait. Et Jésus va se présenter au milieu d'eux, et la première chose qu'il leur dit, parce que Jésus connaît leur cœur, hein, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Il est vrai que parfois, le seul réflexe que l'on a, quand on est en conflit, c'est de s'isoler comme ça. C'est de s'isoler. Voilà, on pourrait même se couper du reste du monde. C'est pour ça que certains vont vivre en ermite. Voilà, parce qu'ils ne supportent plus. Et puis ils pensent trouver la paix en étant tout seuls. Sauf que ils apportent leur âme, leur cœur avec eux. Hein. Et là, ils ne sont pas en paix pour autant. Mais je parlais de l'autorité de la parole de Dieu et de l'action du Saint-Esprit en nous. La paix soit avec vous. Et après avoir été remplis du Saint-Esprit, les disciples vont aller vers les autres, vont aller vers le monde. Il a même fallu que le Seigneur le répète une deuxième fois. La paix soit avec vous. Amen. Que cette parole puisse avoir un écho dans notre cœur, cette parole de Jésus, la paix soit avec vous. On essaye de trouver la paix par nos propres moyens, parfois, mais rien n'y fait. Ce n'est pas en s'isolant, en se coupant du reste du monde qu'on la trouvera, mais en se mettant au pied du Seigneur et en écoutant ce qu'il veut dire à nos cœurs. La paix soit avec vous. Alléluia. Que le Seigneur nous remplisse de sa paix en tout temps et de toute manière. Que Dieu soit béni. Amen.